Chapitre 4. L'herbe pousse vite. Il le faut bien, car tous les sillons, toutes les déchirures de la pauvre terre et toutes les tombes, il faut qu'elle les efface. Avec la première bouchée de pain qu'on mange après son deuil, la vie recommence, car le pain signifie travail, et le travail reprend le corps, l'esprit, et il se glisse dans chaque journée des minutes où l'on oublie. Les classes du pauvre professeur ne pouvaient rester, à cause de sa mort, bien des jours interrompus. André Humbert les dirigea à la place d'Antoine pendant la première semaine. Ce fut une épreuve dont il ne dit rien, mais une dure épreuve. Il rentrait dans ses salles familières, mais il y rentrait si diminué dans son talent, si incertain de l'avenir, si désarmé, que plus d'une fois, tandis que les élèves bruyants de sa classe d'apprentis, garçons en blouse, entraient en se bousculant et se hâtaient d'ouvrir leurs portefeuilles, il lui arriva de porter envie aux plus maladroits d'entre eux, qui, du moins, possédait les doigts de ses deux mains pour tailler son crayon. Sa fierté souffrait de certains regards de compassion, de certaines remarques qu'échangeaient à voix basse les jeunes filles. L'inspecteur scolaire, survenant au milieu d'une leçon, félicita le jeune professeur, avec quelque condescendance et quelque pitié, de tirer si bon parti de ce qui lui restait, expression malheureuse qui, bien des jours plus tard, faisait monter aux joues d'André, chaque fois qu'il y pensait, une rougeur de sensibilité froissée. Mais cette sensibilité extrême, il fallait qu'elle s'endurcît. André Humbert était bien résolu à ne devenir ni un morbide, ni un découragé, ni un homme aigri, et ce qu'il fallait souffrir avant que fût achevée la cautérisation de son amour-propre, il voulait le souffrir. Et ce que ni le raisonnement ni la volonté ne pouvaient opérer, la prière le faisait, enlevant des petites blessures quotidiennes l'aiguillon enfoncé. Si la vie extérieure était ardue et précaire, riche en humiliation, pauvre de succès, le refuge intérieur s'éclairait souvent de joie. Les fondements de l'édifice cachés s'affermissaient, fondements de souffrance et de patience. C'était peu de chose, semblait-il, que de garder une voix égale, un visage tranquille, quand, au tableau noir, devant 50 pères d'yeux curieux, attentifs à la moindre défaillance, André commençait, de la main gauche, à tracer le contour simple de quelques motifs d'ornement. Mais le cœur lui battait, et si sa main, plus mal assurée qu'à la maison, le trahissait tout à coup, s'il fallait effacer une ligne défectueuse, une amère impatience et un dégoût étaient prêts de le saisir. Il retrouvait sur les murs de ses anciens dessins d'écoliers, épinglés là après quelques concours, et il soupirait en pensant au gamin de 15 ans, déjà graveur, qui avait écrit fièrement « André Humbert » sous ses lignes élégantes et fermes. Cependant, les derniers jours de la semaine lui semblèrent moins longs que les premiers, et une leçon qu'il donna aux élèves de la classe supérieure sur l'élément floral dans le style décoratif japonais parut si intéressante qu'on le pria de la répéter un soir au jeune décorateur dont le cours régulier ne commençait qu'à l'automne. De ce jour-là, André conçut quelque espoir et même de l'enthousiasme et travailla non plus seulement avec une rigide persévérance, mais avec certains frémissements de cette joie d'artiste qu'il avait connue les hivers précédents. « Te voilà lancé, lui disait Antoine, tu auras le cours de dessin décoratif quand tu voudras. Tu ne dessinerais pas un trait qu'il serait encore heureux de te choisir pour ton talent d'exposition et d'analyse. Du reste, tu auras la place tout entière, tu sais. Il n'y a plus qu'un fil qui me retienne ici. » Mais ce fil était très fort. C'était un mot, le dernier, qu'eussent tracé des doigts déjà affaiblis et mourants. « La ligne droite, mon enfant, la ligne... » Antoine savait clairement que, pour lui, il n'y avait qu'une ligne de conduite qui fût droite. Mais d'autres, sinueuses et charmantes, l'attiraient vers le pays de ses désirs. Il n'en disait rien, ou si quelque allusion vague lui échappait, il fixait en même temps sur André des yeux interrogateurs. André se gardait de relever l'allusion. Un ordre de choses, temporaire, pensait Antoine, s'établissait dans la maison. Sur les sollicitations pressantes de son ami, André Humbert avait quitté la Touffette. Il partageait maintenant la chambre d'Antoine et acceptait de lui, silencieusement, les menus services dont il ne pouvait encore se passer. Le soir, la grande chambre du cher disparu leur servait de cabinet de travail, ou bien, pour causer seulement, le petit salon gris les réunissait autour de la table à ouvrage de Madame Jacquier, et soit dans la chambre de son père, où cette dernière phrase écrite au crayon le hantait, soit au salon, sous le portrait détesté qu'entourait un anneau ovale, la même pensée poursuivait Antoine. Madame Jacquier s'ingéniait à rendre la maison plus confortable, plus tranquille et plus ouatée encore, pour ses deux fils, comme elle les appelait maintenant. Elle s'inquiétait de la santé d'André, elle inventait de petites gâteries, elle voulait les faire tous deux si enveloppés et liés de bien-être que la fuite leur devint impossible. Ils étaient la condition de son bien-être à elle. M. Jacquier n'avait pu laisser à sa veuve qu'un petit capital, la somme de ses minces économies, dont l'intérêt n'eût pas suffi à la faire vivre. Les deux petites maisons jumelles, léguées à M. Jacquier par sa première femme, appartenaient maintenant à Antoine, mais elles ne rapportaient pas grand-chose, car une forte hypothèque les grevait depuis des années. C'était une fâcheuse histoire de cautionnement, absorbant à chaque terme le produit de sel des deux maisons qu'on louait. Il fallait que quelqu'un travaillât et Madame Jacquier répugnait très fort à être ce quelqu'un. Elle brodera, elle prendra des pensionnaires, se disait Antoine dans les longs entretiens qu'il avait avec lui-même. Puis il songeait à la tendre sollicitude de son père pour cette femme qui bientôt, peut-être, connaîtrait la gêne et l'humiliation des annonces dans le journal local et l'attente anxieuse du travail trop rare. Non, à cause de la chère mémoire de son père, Antoine sentait bien qu'il ne laisserait jamais sa belle-mère en venir là. Mais alors ? Les semaines passées, Antoine avait repris ses leçons, ou plutôt, il les partageait avec André. Le conseil scolaire se déclarait satisfait de cet arrangement, à la condition que, dans le délai d'une année, les deux jeunes gens eussent obtenu certains titres et diplômes en passant par la filière de certains examens. La préparation de ces examens les occupait déjà, et Madame Jacquier n'était jamais plus heureuse que lorsqu'elle voyait les gros tomes de l'histoire de l'art dans tous les siècles descendre de leurs rayons. Car ses études, ses examens, c'était la permanence de sa vie tranquille. Quoique indolente et molle, Madame Jacquier savait aussi bien qu'une autre, quand ses intérêts étaient en jeu, ourdir des fils diplomatiques. Un jour, elle envoya à Juliette Beaussire un petit billet pour la prier de passer la soirée avec eux, si la tristesse de notre maison en deuil ne vous fait pas peur.